Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'est l'histoire d'une petite fille qui ne connaît pas sa date de naissance exacte. Avant-dernière d'une fratrie de 9 enfants, elle grandit en Tunisie, à la campagne, dans un univers scindé entre les hommes et les femmes. Un monde encore ancestral, mais sur le point de s'ouvrir à la modernité. Une petite fille obéissante, réservée, qui à 12 ans est devenue la première de la tribu à partir faire des études et à payer le prix de cette liberté. Plus tard, elle a traversé la Méditerranée, elle est devenue écrivaine, a publié une quinzaine de livres, dont « Le corps de ma mère », entre autres, prix des 5 continents. Aujourd'hui, elle se souvient de ses toutes premières années et raconte dans un récit implacable cette enfance, ce pays, cette époque, avec lesquelles et contre lesquelles, sans doute, elle s'est construite. Bonjour Fawzia Zouari.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de ce livre autobiographique intitulé « Par le fil, je t'ai cousu », publié aux éditions Plomb. Un texte où vous creusez, vous enquêtez, vous exhumez, vous restituez vos jeunes années à partir de 5 ans environ, marquées par une famille, une culture qui aurait pu vous ensevelir et vous laisser invisible. Un retour aux origines donc. Mais pourquoi maintenant? Ou est-ce que finalement ce n'est que la continuité de votre vie, c'est-à-dire qu'à défaut de savoir quel jour vous êtes né, dire où vous êtes né et quel enfant vous avez été?
Je suis à l'âge où on revient à l'enfance. On redevient enfant, on a envie de ça. À l'âge où j'ai envie de faire un genre de retour au pays, mais par les mots. Donc l'enfance, c'était évidente. C'est maintenant que je dois écrire mon enfance. C'est maintenant que je dois rentrer en enfance. Et comment rentrer dans un pays, en fait? Et petit à petit, je me rends compte qu'il y a deux pays dans lesquels je vis. L'enfance et la langue dans laquelle j'écris, en l'occurrence le français, qui n'est donc pas la langue de ma mère. Donc voilà à travers quoi je voyage. Mais c'est vrai ce que vous dites. Je me suis rendu compte aussi que l'enfance revient parce que pratiquement tous les livres que j'ai écrits partent de l'enfance. Et donc je suis allée enquêter. Pourquoi je suis devenue la femme que je suis actuellement? Quelles sont les scènes fondatrices à partir desquelles je me suis construite? Est-ce que je me suis déconstruite et comment je me suis reconstruite? Et donc, il y a effectivement deux ou trois scènes qui sont restées, que je retrouve dans tous mes livres pratiquement. Et notamment, bien sûr, cette scène autour du corps, où on ferme le corps d'une femme pour qu'elle reste intacte. Et puis, cette scène du départ que je raconte dans un autre livre où, à un moment, on m'avait cherché, on ne m'a pas trouvé, et ma mère a cru que je m'étais enfuie. Et elle a dit, ça y est, elle est partie. Et 40 ans plus tard, j'ai un ami psychanalyste qui m'a dit, elle a eu la prémonition de ton départ en France. Voilà, donc il y a des scènes comme ça qui sont en train de revenir, avec lesquelles j'écris depuis 30 ans. Et il fallait que je revienne.
Alors c'est vrai que le livre s'ouvre sur ce rituel que votre mère vous fait subir et qui donne son titre au livre. Mais avant d'en arriver à cette scène aussi cruciale que symbolique, commençons donc par cette période entre 5 et 12 ans. Vous avez été une petite fille plutôt heureuse et libre à cette époque, n'est-ce pas, Fawzia Zouari?
Oui, parce que nous sommes dans un monde, le monde arabe et le monde africain d'ailleurs, où quand on est petit, eh bien, on est libre. On vous laisse faire ce que vous voulez. Et quand on devient adulte, c'est terminé la liberté. C'est le contraire d'ici. Ici, à partir de 18 ans, on dit aux parents, c'est terminé, voilà, je suis libre. C'est le contraire. Donc, quand on était enfant, on était libre. Et on était libre parce qu'on ne nous surveillait pas, on était dans les champs, la nature y aidait aussi. Et puis, il y avait des périodes, par exemple, le mois de Ramadan, où, quand les adultes se mettent autour de la table, nous, on nous mettait dehors. Et du coup, le village dans lequel j'étais était notre espace. Donc, on s'appropriait tout ce petit village, il était à nous. On allait regarder les vitrines, on se mettait en dessous des voitures, les premières voitures qui arrivaient en Tunisie. Et donc, effectivement, on était assez libre. Et quand je vois maintenant en France, parce que dans ce livre, il y a toujours l'écho de ce qui se passe ici. Et j'ai dit, moi, avec mes enfants, qui ont étudié donc à Paris, à quel point ils n'étaient pas libres. Parce que j'étais tout le temps derrière eux, fais attention à ne pas te faire racketter, à ne pas te faire enlever, etc. Ces choses-là ne venaient pas à l'esprit de nos parents. On ne pouvait pas fuguer et on ne pouvait pas, il n'y avait pas de prédateurs autour des enfants. On était en quelque sorte, oui, on avait cette grâce-là d'être libre, avant l'étau, bien sûr.
Et dans cette libre circulation, vous croisez les gens du village avec facilité. Et il y a une personne en particulier qui va vous marquer très tôt, c'est Chig, qui raconte des histoires. Qui était cette femme ?
Alors c'est une femme qui était une nomade. Elle venait une fois l'an, l'été, dans notre village, qui est donc dans le nord-ouest, c'est quand même le grenier, l'ancien grenier de Rome. Donc il y a du blé et de l'orge. Elle venait du sud pour glaner et après elle repartait. Donc elle restait à peu près 2 mois. Et pendant 2 mois, eh bien, les fenêtres ou les portes du monde parallèle s'ouvrent. C'est-à-dire qu'elle était la reine du conte. Ma Shirazade à moi de mon enfance. Et donc tous les soirs, une fois qu'elle avait terminé donc et revenue des champs, on lui demandait de nous raconter des histoires. Elle nous demandait un petit sou, on lui donnait et elle racontait cette histoire. Et quand elle se rendormait, parce qu'elle était fatiguée, on était petits et méchants sans doute, eh bien on retirait le petit sou qu'on venait de lui donner. Elle s'en offusquait pas et le lendemain recommençait les contes. Je crois que c'est elle la première qui m'a ouvert ce monde de l'imaginaire. C'est avec elle que j'écris aussi toujours.
Oui, en effet, on a l'impression que c'est bien d'elle que vient ce premier goût pour le conte et puis qui plus tard aussi vous donnera envie d'apprendre à l'école et puis de devenir écrivain. C'est une rencontre majeure pour vous, Fawzia Zoari.
Oui, parce que je pense qu'il me fallait ces mondes parallèles. C'est une forme de bovarisme, en fait. J'étais une sorte de petite Emma Bovary qui cherchait d'autres vies ailleurs. Alors elle, cette conteuse, elle nous les offrait et sa vie elle-même était un conte parce qu'on disait qu'elle s'était mariée à 7 hommes et donc qu'elle voyageait à chaque fois, elle en laissait un, elle en retrouvait un autre. Donc en elle-même, c'était une légende que j'acceptais, moi, parfaitement. Je la mettais sur le compte des contes. Donc, c'était la même chose. Donc, il me fallait d'autres mondes. Et donc, après, ça va être l'école. Parce que l'école ouvre sur autre chose. Les livres ouvrent sur autre chose. J'ai commencé dans la langue arabe. Et après, j'ai continué à partir de la 3e année d'école primaire. Donc, à partir de l'âge de 9 ans à peu près, à apprendre le français. Parce que je ne suis pas née dans la langue française. Je suis née dans la langue arabe. Ma première école était l'école coranique. Donc j'ai appris le Coran d'abord. J'ai appris une autre langue. Et peut-être que c'est une des raisons pour laquelle je me suis enfuie, j'ai fugué vers le français pour avoir peut-être une langue un peu moins sacrée et dans laquelle je peux recommencer ces mondes imaginaires dans lesquels on transgresse l'interdit.
L'imaginaire, en effet, une première fenêtre d'ouverture dans ce qui va devenir une prison à ciel ouvert, qui sera suivie aussi par d'autres. Il y aura votre tante Fatia, dont la présence souffle avec un vent nouveau. Il y aura la tendresse de Dada, une cousine à qui votre mère vous prêtera 9 mois. Et puis les différents arts qui vont arriver, avec d'abord la musique qui entre dans le village grâce à 2 chanteuses, Oulaya et Naama. Vous les avez vraiment vues, entendues, enfants, Fawzia Zoari ?
Ah oui, j'étais vraiment enfant, je devais avoir 4-5 ans. Et c'était les premières chanteuses qui arrivaient dans ce village. Donc il faut vous dire que dans ce livre, c'est aussi le portrait d'un petit village de la Tunisie de la moitié des années 50. C'est-à-dire que les femmes vivaient comme vivait ma mère et pas du tout comme je vis moi maintenant. Et donc il y avait l'arrivée des premières voitures. Et là, par exemple, quand la première voiture arrive au village, d'ailleurs, on croyait que c'était une ogresse et les gens s'enfuyaient. Il fallait absolument leur dire, mais non, c'est un simple moteur. Et donc, après, il y a l'arrivée de la télévision. Et là aussi, donc, il y avait un monde qui était extraordinaire. On était 50 chez ma tante à voir, à regarder la télévision. Elle n'en pouvait plus, mais tout le village se réunissait chez elle, en tout cas les femmes. Après, il y a eu donc l'arrivée de l'art et de la musique. Et c'était moins la musique, moi, qui m'intéressait que ces femmes qui étaient des sortes d'ovnis pour moi, parce que je ne les retrouvais pas chez mes tantes, chez mes sœurs, etc. Mes sœurs, c'est autre chose parce qu'elles changeront après, elles étaient jeunes. C'était des femmes avec ces robes magnifiques, avec ces coiffures, avec ces rouges à lèvres, etc. Et d'ailleurs, on nous disait, il ne faut pas les prendre au sérieux, ce sont plus ou moins des débauchés. Parce qu'à l'époque, une femme qui pratique un art, que ce soit le théâtre ou la musique, était une femme marginale, pour ne pas dire qu'elle se prostitue un peu. Donc on nous disait, quand on était petit, regardez-les, surtout n'en prenez pas exemple sur elles. Et d'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elles boivent avant d'être sur scène, parce que sinon, elles ne pourront pas confronter le public masculin. Mais pour nous, c'était sur la place du village, et moi j'étais là, et j'étais ravie. Et je m'en souviens comme si c'était hier.
Est-ce qu'il y a un des titres de ces interprètes que vous aimeriez qu'on écoute ensemble maintenant, Fawzia Zoari?
Ah bah, ce que vous voulez, de l'une ou l'autre, c'était vraiment... D'ailleurs, Naama est décédée il n'y a pas très très longtemps. Roulay est décédée il y a longtemps. Je les aime toutes les deux font partie de mon enfance. Donc,
Alors on va écouter peut-être Naama. Bien l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de Fawzia Zoari, qui vient de publier « Par le fil, je t'ai cousu » aux éditions Plon, un récit autobiographique, on l'a dit en première partie, où vous vous souvenez de votre toute petite enfance en Tunisie. Un autoportrait, mais aussi le portrait en creux des femmes du village, de votre famille, vos sœurs ou vos mères. Personnes qui, par le genre de leur naissance, sont assignées a un rôle, une place dans la société de cette époque où il est difficile de s'extraire. Un monde, on le découvre en vous lisant, Fawzia Zoari, qui est binaire, régi par l'interdit et la peur dont vous avez été longtemps habité. Et paradoxalement, c'est votre père qui va vous encourager, vous pousser à sortir de cette condition féminine en vous envoyant contre la volonté de sa femme à l'école. Comment expliquez-vous qu'il ait été votre meilleur allié ?
C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc je ne peux pas dire que je suis une femme opprimée par son père et que j'ai subi une sorte de patriarcat auprès, donc, dans cette situation-là. En fait, non. Celle qui commandait, celle qui avait le pouvoir, c'était ma mère. C'était comme ça. Et donc, j'ai écrit un livre sur elle, Le corps de ma mère, où je dis à quel point cette femme commandait à nos vies, qu'elle commandait même indirectement à la vie du village. Il y a des femmes comme ça, hein, qui, derrière les murs, ont un pouvoir extraordinaire. Mon père, non, il avait un côté artiste, un côté moderniste avant l'heure. Un côté, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui adorait la médecine et qui partait exprès à Tunis pour faire le tour des médecins sans qu'il ait aucune maladie et qui revenait avec ses médicaments qu'il distribuait pour tout le village en disant, même quand on n'est pas malade, mais vas-y, prends quelques pilules, c'est bon pour toi. Donc, cette dame médecine qu'il aimait, il aimait beaucoup la musique. Après, il s'est acheté une voiture. Donc, c'était un moderniste. Mais c'était un village où on ne pouvait pas comprendre des choses comme ça. Donc, il se met j'étais en dehors de la scène de l'action elle-même et surtout quand l'action concernait ses filles. Là, c'était ma mère qui commandait. Et donc, elle commandait pour qu'on soit comme elle, c'est-à-dire qu'on ait exactement à peu près le même destin. Et puisque vous avez parlé des femmes, effectivement, c'était une époque et un village où il y avait trois catégories de femmes. Il y avait l'épouse légitime qui ne sortait pas, qui était derrière les murs et qui commandait, du moins la sphère de l'intime. Il y avait les marginales, celles qui sortaient. Et pour nous, bon, c'était pas les femmes qu'il fallait respecter. C'était voilà les marginales. Et d'ailleurs, il y en a une ou deux dont je parle assez souvent dans ce livre. Et puis il y avait les jeunes filles, c'est-à-dire mes sœurs aînées, qui ont fait quelques années d'école et qui ont été obligées de rentrer à la maison et ma mère a fermé là.
Alors, il faut expliquer Fawzia Zahori, parce que ça, c'est quand même une scène fondatrice.
Oui.
Quand votre mère a brûlé les cartables de vos deux sœurs aînées avant de les enfermer à clé à la maison jusqu'à leur mariage. Elles avaient juste à leur disposition une petite lucarne par laquelle elles voyaient à hauteur de rue les souliers des gens qui passaient. Elles ne voyaient même pas l'intégralité des corps. J'imagine que c'est une scène qui vous a marqué à vie.
Oui, et c'est une scène qui, à chaque fois, ressurgit dans mes livres. Oui, effectivement, j'avais donc a priori 6 ans, hein, parce que je ne connaissais pas vraiment mon âge. Donc, mes sœurs étaient à l'école primaire. Et là, mon frère aîné vient et dit, ben, tu n'as pas vu tes filles, elles commencent à avoir des formes, elles traversent le village, c'est un scandale absolu. Donc, elle attend qu'elles reviennent et elle dit, voilà, c'est terminé. Et donc, elle brûle. Et moi, j'étais là, j'étais donc toute petite. Et il y avait les fours traditionnels à pain. Et elle avait un homme de main qu'on appelait Bouddha, parce qu'il avait fait la guerre d'Indochine. Et elle lui dit, vas-y. Et donc, il a jeté tout, les cartables, les tabliers, tout ça. Donc, et je voyais mes sœurs qui étaient dans... Il y avait une scène tragique. Et moi, donc vous pouvez imaginer l'enfant qui regarde ça. Et je crois, et ma mère était d'autant plus cruelle qu'à la rentrée, elle dit à mes sœurs, bon, vous allez faire un dernier tour à l'école en emmenant votre dernière sœur. Donc moi, je rentre en première année et elles sortent définitivement. Et donc j'ai toujours gardé ça comme une sorte de... Non, il ne fallait pas. Il fallait pourquoi elles sortent et moi, je rentre. Donc il fallait prendre leur revanche plus tard.
Mais elles ont été sacrifiées à la tradition.
Oui, alors c'était donc l'époque où on disait aux filles, bon, vous avez quelques années, maintenant vous rentrez à la maison. Et c'est là la troisième catégorie donc, de filles, après les femmes légitimes, les marginales, ce sont ces jeunes filles qui ont été quelques années à l'école, donc qui ont vu un monde extérieur différent de celui de leur mère. Et tout d'un coup, on leur dit, ça y est, vous ne pouvez plus avoir accès à ce monde. Et c'est là où je parle d'une vague de suicides qui s'est passée au village. Et on m'a expliqué bien plus tard que c'était ces filles-là qui ne se retrouvaient plus une fois qu'elles étaient derrière les murs, parce qu'on leur a montré quelque chose d'autre. Si au moins elles n'étaient pas sorties, comme ma mère, elles n'auraient pas revendiqué autre chose. Mais là, c'était la frustration totale. Elle se suicidait, mais on ne disait pas à l'époque qu'on se suicide. Ça ne se fait pas. Donc on trouvait toujours un prétexte, voilà.
Alors vous avez échappé à cela grâce à votre père, encore une fois, qui lui ne vous voyait pas comme un corps féminin, mais comme un esprit. Et c'est sans doute pour cela aussi qu'il voulait absolument que vous continuiez vos études et qu'il s'est opposé fermement à sa femme. En revanche... Elle n'a pas pu s'empêcher donc de vous faire subir le rituel du serrage juste avant que vous partiez à l'aube de vos 12 ans. En quoi ça consiste exactement?
Alors, on ne le sait pas assez ou on l'ignore parce que l'époque est révolue, bien que ça existe encore dans certains villages. On appelle ça le blindage ou le ferrage. C'est une façon de fermer la membrane, l'hymen des femmes, mais avec la magie. C'est-à-dire qu'on n'y va pas avec un vrai fil, une vraie aiguille, on y va avec des mots. Et donc, ça consistait à ce que la petite fille enjambe un métier à tisser, je vous le dis très très rapidement, et que on lui fasse une entaille au niveau du genou, on met un grain de raisin dans le sang et on lui fait manger en disant cette formule, par le fil je t'ai cousu, tu seras fermé, etc. Et aucun homme ne pourra traverser ton mur. Il sera le fil et tu seras le mur. Voilà. Donc ça, j'avais subi ça, moi, avec mes sœurs. Bon, mes sœurs sont rentrées à la maison, il y avait moins de risques, mais moi, je l'ai subi parce que je devais partir pour continuer continuer mes études secondaires qui se passaient à 30 kilomètres. Mais pour ma mère, c'était très très lointain. Et d'ailleurs, j'ai appelé ça mon premier exil parce que je partais ailleurs. Donc j'ai subi ça.
Alors, ce qui est frappant dans votre récit, Fawzia Zoharis, c'est de voir, et d'ailleurs vous l'écrivez, donc je vous cite, « Il y aurait dans le malheur des femmes la main des femmes. Maman en était l'illustration. » Fermez les guillemets. Donc, si je comprends bien, le féminisme a dû aussi se faire sans et parfois contre certaines femmes.
Oui, c'est évident. On le voit hier comme aujourd'hui. Moi, je l'ai vu avec ma mère, bien que je ne l'accuse pas. Hein, vous l'avez compris, je ne suis pas dans une sorte de haine de la famille ou de ma mère. Mais souvent, ce sont les femmes qui ont perpétué cette tradition. C'est elles qui détenaient tout ce qu'il fallait de la tradition. On leur a dit que ça faisait leur bonheur alors qu'elles faisaient leur malheur et le nôtre. Et ça continue jusqu'à maintenant. Quand je vois, par exemple, toutes ces femmes qui relaient le dogmatisme et l'islamisme et tout ça, je me dis, ce sont quand même des femmes contre les femmes. Parce qu'à partir du moment où vous acceptez d'être mineure, d'avoir un statut où vous avez la moitié de tout, vous n'êtes pratiquement pas un être humain, vous êtes obligée d'être couverte, vous êtes astreinte au rôle de complémentaire et non pas d'égale, c'est que où vous avez une sorte de mésestime et de haine de vous-même, ou vous haïssez les femmes d'une façon générale.
Avec cette façon de perpétuer la tradition, en effet, où elle considère ses fils comme des seigneurs et ses filles comme des servantes. Mais d'une certaine façon, Fawzia Zoharis, il me semble que c'est quand même un tabou que vous mettez au grand jour ici. Ça ne se dit pas facilement que des femmes ont entravé la liberté d'autres femmes.
Effectivement, mais je le dis pas dans un discours, hein, parce que ça passerait effectivement mal. Bien que peut-être que dans un essai, peut-être qu'il faille le dire quand même. Je le dis dans le roman, c'est-à-dire en quelque sorte à travers les lignes et à travers l'émotion, et sans être dans une sorte de jugement intellectuel. Je le dis à partir d'une situation vécue. Parce que tout ce livre, c'est ce que j'ai vécu. Et de toutes les façons, je n'ai même pas à dire tout ça. Parce que je parle d'une famille et c'est comme le corps de ma mère. Je vais devoir dire ce n'est pas moi pour ne pas choquer. D'ailleurs, les noms ont été changés parce que je parle de l'intime de cette société et d'une époque dans laquelle beaucoup ne se reconnaissent pas. Oui, c'est une forme de transgression et il faut le savoir quand on écrit comme ça. Moi, en écrivant ce livre, par exemple, je me suis dit, tiens, je vais lire Simone de Beauvoir. Je me suis dit, mais ce n'est pas du tout la même vie. Je n'arrive même pas à savoir, moi, quand je suis née. Je ne peux pas avoir les mêmes parents. Comment elle peut dire sa formule célèbre, on ne naît pas fille, on le devient. Et moi, je me disais, mais je suis née fille. Je ne pouvais pas naître autrement que fille. Même dans le ventre de ma mère, j'étais programmée pour être une fille. Et toute cette enfance était comme ça. C'est pour ça que je crois que notre combat est peut-être plus grand, on ne le reconnaît pas, de transgresser, de traverser toutes sortes de frontières et tout ça. Bon, je ne demande pas qu'on ait pitié de nous, je déteste le statut de la victime.
Bien entendu.
Pas du tout. Mais pour dire que, quand même, pour se construire, c'est quand même beaucoup. Mais on nous a appris, il y a quelque chose de positif dans la notion de Ummah, de la communauté. C'est-à-dire, les gens autour de vous, il y a un espace public que vous devez de toutes les façons respecter. Et puis, vous ne pouvez pas être l'individu. Vous êtes une communauté. Parce que si vous êtes l'individu, vous êtes automatiquement marginal. Donc, la communauté, ça veut dire aussi subir et ne pas se plaindre. Ça veut dire, tout ça, c'est normal. C'est peut-être avec ça qu'on sait, il y avait une sorte de, oui, d'armure qu'on nous a inculquée très tôt pour ne pas subir de traumatisme. Parce que moi, je me dis, avec toutes ces scènes-là, mais comment je suis restée normale?
Je suis bien d'accord avec vous. Surtout quand on pense à cette scène terrible où elle vous menace d'un couteau et dit qu'elle va vous égorger.
Oui.
Si vous ne répondez pas à l'une de ces questions, mais quelle violence!
Oui, oui. Et pendant des années, d'ailleurs, je continue à nier. Je suis dans une sorte de déni, peut-être, de cette violence-là. Peut-être pour accepter que ma mère soit ma mère et pour qu'il n'y ait pas de problème. Et à la fin de sa vie, j'étais l'une de ses filles qui s'occupait le plus d'elle. Donc, vous voyez, il n'y a pas de famille, je vouais. Il n'y a pas de famille, je romps avec toi. Je me rappelle qu'après le livre « Le corps de ma mère », il y a un journaliste qui m'a dit « Mais ce n'est pas possible. Pourquoi vous ne haïssez pas votre mère ?» J'ai dit, j'en suis peut-être incapable. Mais voilà, c'est une société dans laquelle la notion, par exemple, d'aller chez le psy ou le fait d'aller n'existe pas. Ben non, vous êtes fou si j'allais, vous allez. Donc, vous êtes obligé d'être normal.
Et en même temps, est-ce que par l'écriture, Fawzia Zoari, et par exemple par ce livre, même s'il s'intitule « Par ce fil, je t'ai cousu », vous coupez finalement le cordon ombilical ?
Je pense que oui, l'écriture m'a beaucoup, beaucoup, elle m'a sauvée. Je pense que toutes ces choses qui sont restées au fond de moi, toutes ces révoltes, toutes ces réponses qui sont restées tues, toutes ces répliques à ma mère, toute cette absence de fugue, parce que j'aurais pu partir, j'aurais pu injurier. Non, j'étais très très sage, je ne répondais jamais. Tout ça sert un peu, a servi de, comme une sorte de patrimoine, de capital, pour écrire plus tard. Je ne vais pas être dans une forme de masochisme pour dire non, j'ai tout fait pour conserver ça plus tard. Non, j'aurais bien voulu éviter cette situation. Mais le fait est que j'écris avec et qu'elles m'ont beaucoup, beaucoup servi. Et l'écriture a fait en sorte que ça sorte.
J'ai tout fait en plusieurs mots ou j'ai tout fait en
les
un
deux.
Seul mot. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que tout au long de votre livre, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, évidemment, se pose des questions et se demande pourquoi cette petite fille qui était si sage et si obéissante, finalement, s'est émancipée. Est-ce que vous avez pris conscience à quel moment, Fawzia Zoari, en effet, vous avez pu vous libérer de cette emprise à la fois maternelle et culturelle ?
En fait, j'ai vécu ma vie comme si tout allait de soi. Je ne me suis pas dit, tiens, mais tu as fait ça, mais tu as été une résistante, mais tu as été une héroïne. Pas du tout. Ce n'est que bien plus tard que devant la question d'un de mes éditeurs, d'ailleurs, qui m'a dit, mais attends, Fawzia, mais quand même, mais tu es une femme très moderne, très émancipée. Tu ne vas pas me faire croire que tu as été cette petite fille-là. Donc, je me suis posé la question de ce miracle, entre guillemets, je ne sais pas laudatif, qui a fait que, effectivement, j'aurais pu exactement avoir la même destinée de ma mère ou de mes sœurs, c'est-à-dire la maison, on marie, qu'on te choisit, etc. Comment ça se fait que je vive aujourd'hui et que je sois dans cette situation où je suis plus moderne que les modernes, plus féministe que les féministes, comme si j'étais née dans une famille, voilà, à la Simone de Beauvoir, justement. Donc, voilà. Et après, je me suis étonnée de moi-même. Mais je ne me suis pas analysée tout le long en me disant, voilà, ça coulait de soi. C'est pour ça que je vous dis, ça s'est fait peut-être, parce que l'écriture aussi attendait. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
D'où la beauté de ce récit, qui en effet ne correspond à aucun canon attendu. Et c'est le parcours d'une petite fille, parcours inattendu qui donne l'adulte que vous êtes aujourd'hui, l'écrivaine que vous êtes et qui ne ressemble à aucun autre. Le livre s'arrête, hélas, au moment où vous allez partir. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce premier volume ?
Alors effectivement, j'ai pensé, parce que j'ai déjà une centaine de pages là-dessus que j'ai écrites il y a très longtemps, la deuxième période, ce serait l'internat. Puisque après, donc, je pars de ce village et pendant 7 ans, je suis interne. Et là, c'est une sorte de harem parce qu'on n'était que des filles, sauf quand on allait en classe, c'était les garçons. Et une fois sortis de classe, tout redevenait donc des espaces séparés, la récréation, le réfectoire et tout ça. Et donc, là, j'ai vécu une vie complètement différente dans une région où il faisait très, très froid. C'était un peu le goulag pour nous, séparés complètement donc de ma famille. Je pouvais y aller une fois par mois parce qu'on ne voyageait pas beaucoup à cette époque. Donc voilà, ça, c'est un autre monde. Et là, je vais me reconstituer une autre famille. Et là, avec l'éloignement, cet exil, entre guillemets, la faim, le froid, je vais avoir peut-être aussi cette armure qui va m'aider à continuer.
Donc on a hâte de lire la suite, mais en attendant, évidemment, ce livre à découvrir. Merci beaucoup, Fawzia Zoari.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce récit autobiographique « Par le fil, je t'ai cousu », publié aux éditions Plomb.
Littérature sans frontières.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.
Le FIPADOC.